Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Bonjour à toutes et à tous, très bonne semaine à l'écoute de Sud Radio, on est content de vous retrouver. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Bonjour Rémi.
Bonjour
Rémi. Pendant 2h, on est avec vous, 0826-300-300, entre 10h et 11h, les médias. Alors, c'est un petit peu spécial Canal Plus aujourd'hui, puisqu'on va parler, on va être avec Gilou, avec Thierry Godard, qui est dans la série Engrenage. On est ravis de le recevoir. Série formidable, peut-être, moi j'ai envie de dire, la meilleure série française depuis un bon moment. Donc il sera avec nous, vous pouvez l'appeler, poser vos questions et lui dire combien vous l'aimez. Voilà. Et puis à 11h-20, on va parler d'un documentaire assez exceptionnel qui va être diffusé mercredi sur Canal+. C'est Michel Perard, un ancien otage qui lui-même est allé interroger 7 anciens otages, un Colombien, une Italienne. Enfin, tous ont des histoires particulières avec parfois des points communs. C'est vraiment un documentaire que je vous recommande. On va en parler avec le réalisateur dans quelques instants. Et puis à 11h, bah, évidemment, on va parler des gilets jaunes, des manifs qui dégénèrent. Est-ce qu'il faut en finir avec ces manifestations? Qu'en pensez-vous? On attend vos réactions. 0826-300-300 et on commence avec les audiences. Et Rémi.
Sud Radio, le 10h midi, les médias. Découvrons les audiences.
Alors, le carton, Rémi?
Bah écoutez, le carton du week-end, c'est pour TF1, samedi soir. 5 598 000 téléspectateurs et 28,5% de part de marché pour le lancement de la saison 8 de The Voice. C'est presque 3 millions de plus que le samedi précédent. C'était une émission d'Arthur. Donc TF1 était largement leader des chaînes généralistes samedi devant France 3 avec le téléfilm policier Cassandre, 3 850 000 téléspectateurs. À noter quand même la forte baisse quand même de The Voice par rapport à l'année dernière, c'est 800 000 téléspectateurs de moins qu'en 2018 et 1 300 000 de moins qu'en 2017. En fait, c'est le plus mauvais démarrage historique pour un lancement de The Voice. Donc,
ça reste quand même un score assez fort.
C'est un très gros score, mais comme on voit, il y a un gros enjeu quand pour le nouveau jury et les nouvelles règles pour qu'il arrive à convaincre, parce que historiquement, la première émission de The Voice démarre et puis après ça baisse un peu.
Oui, parce qu'il y a une curiosité.
À noter que TF1 a fait un communiqué disant que c'était leur meilleure audience sur le vendredi depuis décembre.
Sur le samedi
depuis décembre, en fait.
Donc c'est à la fois une très bonne audience, mais en même temps.
Ils avaient plein de divertissements d'Arthur qui faisaient à peine moins de 3 millions, donc c'est sûr que c'était le meilleur.
Donc c'est un peu dur.
Il fallait qu'ils trouvent une façon de communiquer.
C'est un bon score pour eux, mais c'est peut-être une déception pour un démarrage moindre.
Peut-être quand même. On va suivre ça de près. Peut-être. Bon, alors je signale aussi quand même un bon score pour le rugby. Hier, 4 512 000 téléspectateurs. Un peu plus de 30% de part de marché pour le match Angleterre-France. C'est un très gros score, Gilles, dans tous les sens du terme, puisque la France a été battue 44 à 8. C'est le plus gros écart depuis 1911.
Eh ben, dites donc, vous avez regardé?
On est contre une telle défaite.
Alors, le gadin?
Le gadin du week-end, c'est pour C8, vendredi soir. Ouais. Seulement 334 000 téléspectateurs pour la première partie de Balance ton poste. C'est 200 000 de moins que la semaine dernière. C'est un gros flop pour François de Rugy, qui vaut à Cyril Hanouna son plus bas score historique avec Balance ton poste.
300 000, poste. C'est...
Ben oui, c'est même 2 000 de moins que la première émission le 21 septembre 2018. Et puis c'est surtout 700 000 téléspectateurs de moins que... avec Marlène Schiappa, là, il y a deux semaines avant.
Oui, donc c'était pas terrible.
Pas terrible.
La surprise?
La surprise, c'est aussi une mauvaise surprise, le faible score des Victoires de la musique sur France 2 vendredi. Seulement 2 033 000 téléspectateurs, 13% de part de marché pour la cérémonie animée par Daphné Burki. En fait, c'est 800 000 de moins que l'an dernier et c'est le plus bas score historique aussi pour France 2. Un vrai flop. Surtout que ce vendredi, il n'y avait pas de forte concurrence. Le divertissement animé par Arthur sur TF1 a fait tout juste 3 millions de téléspectateurs.
Enfin, on n'en a pas parlé vendredi, on aurait dû en parler peut-être, mais l'absence de l'album de Johnny Hallyday et puis surtout le palmarès, je suis incapable de
On n'a pas pu en parler parce que le directeur des divertissements devait venir et il n'est pas venu. Donc c'est vrai qu'on n'a pas pu en parler la semaine dernière.
Oui, non, il devait venir et il n'est pas venu, il a annulé. Je ne sais pas pourquoi, il a eu peur de venir.
Peur qu'on lui parle de la mauvaise audience à chaque fois des Victoires de la
musique. Mais en tout cas, c'est vrai que le palmarès est assez étonnant et cet artiste qui a gagné, je n'en avais jamais entendu parler. Je pense que je ne suis pas la seule.
Oui,
Jeanne Haddad, c'est ça?
J'ai failli vous passer un extrait dans le zapping.
Non, mais c'est quoi? C'est complètement hors sol, ce palmarès, non?
Oui, et puis les
En tout cas,
il y a eu un coup de gueule aussi de l'ancien patron d'Universal. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur Twitter, Pascal Nègre, qui a demandé d'arrêter cette cérémonie et d'arrêter les frais des magouillages des maisons de 10. C'est ce qu'il a écrit.
On va l'inviter, tiens, Pascal Nègre.
Vous verrez, il a fait beaucoup de tweets à ce sujet.
Se moquer du public quand même et diffuser ce genre de cérémonie qui n'est pas populaire, qui est, enfin, c'est...
Ah, puis alors l'animation, qui était aussi hors sol, très voilà. Bobo,
hors
mais
sol.
Des séquences décalées.
Je dois vous dire que c'était assez...
La sanction du public était là.
C'était le gadin et super gadin.
C'était une surprise en gadin.
Je ne sais pas pourquoi c'est une surprise, parce qu'on vous l'aurait dit, nous, Rémi, que ça allait être un gadin.
Non, mais parce que l'année dernière, bizarrement, Daphné Burki, qui présentait, avait fait 2,8 millions, donc un bon score. Donc j'ai voulu, vous voyez, laisser sa chance au produit.
Allez, on va passer à nos auditeurs. Cynthia, qui nous appelle de Narbonne. Bonjour, Cynthia.
Bonjour à tous.
Bonjour. Qu'est-ce que vous avez regardé, vous, ce week-end ?
Ce week-end, alors, la seule chose que j'ai regardée, c'est hier sur TF1 Babysitting.
Ah. Vous ne l'aviez pas vu ?
Non, je n'ai pas vu du tout. Je ne connaissais pas non plus.
Ça vous fait rire, ça vous a fait rire ?
Pas tout le temps. Ah. J'ai dû rire une ou deux fois, mais en fait, pourquoi j'ai regardé ? Parce qu'au départ, je me suis dit, tiens, ça ressemble un peu à une sorte de hangover français.
Ouais, c'est ça.
Je me suis laissée un petit peu aller, puis bon, après, il y avait Gérard Jugnot et...
Philippe Lachaud.
Je me suis dit, allez, je vais regarder, peut-être que ça va...
Bon, enfin, vous êtes allée au bout quand même, non ?
Je suis allée jusqu'au bout du film. Donc je l'ai regardé vraiment du début jusqu'à la fin et c'est un petit film qui se passe plutôt vite, même si parfois il y a des longueurs.
Bon film du dimanche soir, pour s'endormir, c'est très bien. Ça
marche,
Rémi ?
Mais oui, ça a bien marché, 4 669 000 téléspectateurs. Oui, c'est typiquement le film TF1 du dimanche soir, une comédie un peu légère qui se regarde avant de reprendre le travail le lundi.
J'ai retrouvé le tweet de Pascal Nègre. Halte aux défaites de la musique, quelle honte, surtout à l'aune des budgets investis. Arrêtez l'entre-soi, les victoires doivent être sérieusement repensées en profondeur. Eh bien, on est tout à fait d'accord avec Pascal Nègre. On va passer au zapping.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Eh bien, Valérie, Rémi, c'était un week-end où on a chanté et aussi déchanté. Alors, commençons par ceux qui déchantent, comme Laurent Ruquier qui s'est retrouvé face au fils d'Alain Delon, Alain Delon. Je crois que le melon, c'est de famille.
Alors non, c'est
vous
pas.
Vous pouvez pas nous reprocher ça, voyez.
Je ne vous le reproche pas. En revanche, ça sort de votre bouche où vous me dites que c'est mon histoire, c'est l'histoire de mon père. Alors à ce stade-là, franchement, relisez le roman. C'est pas la vérité. Voilà. Il y a un moment où moi aussi, j'ai pas envie de m'afficher, j'ai pas envie d'afficher ma vie privée, j'ai pas envie de laver mon linge sale en public. C'est pas du tout ça que j'essayais de faire. Franchement, c'était plus de raconter une histoire. N'importe quel autre auteur qui viendrait pour son premier roman, je pense franchement que vous ne lui ferez pas cet affront-là de lui demander qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Quand vous entendez des rappeurs qui disent dans une chanson « j'ai tué 5 flics », est-ce que vous allez lui demander s'il a vraiment tué 5 flics ?
Certains l'ont fait.
Oui, mais enfin, au final, la question se répond assez rapidement. Non, c'est pas le cas. Je m'inspire, je suis un artiste, je suis un interprète. Point. Si on peut en revenir au texte, ça me plairait vraiment. En revanche, si c'est pour répondre à des questions de « est-ce que c'est ton père, est-ce que c'est pas
ton
père ?»
J'ai pas encore posé cette question.
Pas encore, mais pour prévenir, c'est mieux quand même.
Bon, évidemment, ça a été un déchaînement sur les réseaux sociaux. Plus qu'après Quotidien, où on avait déjà remarqué sa forte intelligence et qu'il n'est pas le fils de Delon qui écrit un livre pas du tout sur son père, non, bien sûr.
L'histoire d'un jeune homme qui veut être comédien, dont le père est un monstre sacré du cinéma. Toute ressemblance avec la réalité. Évidemment, est fortuite.
Et surtout qu'au début, il a commencé par présenter ça comme une histoire personnelle, et puis il s'est rendu compte que ça posait un problème, il a eu peur de son père, je pense. Et là, on entend très clairement, franchement, c'est des éléments de langage, il a préparé ce truc sur les rappeurs, vous voyez, ça sent vraiment la phrase répétée, on lui a dit « si tu veux éviter qu'on te pose la question, vas-y, dis comme ça ». C'est vraiment, je trouve ça pitoyable.
Surtout qu'il a raconté, moi je l'avais vu dans le quotidien, il a quand même raconté que le livre, il l'avait écrit avec quelqu'un. Oui. Donc moi, j'ai jamais vu de premier roman, enfin ou alors... Non, j'ai jamais vu de premier roman écrit avec un co-auteur. Avec le co-auteur, ou alors il faut mettre le nom du co-auteur. Enfin, je sais pas, c'est très étrange.
Mais c'est,
moi, j'avais été très mal à l'aise. Oui.
Françoise Vernier, elle a écrit dans un livre.
Oui, je suis d'accord, mais enfin, ils assumaient le roman. Là, c'est. Voilà.
On reste sur la paternité, toujours à propos de la paternité. Celle du joueur de football, champion du monde, Emmanuel Petit, qui était chez Thierry Ardisson dans Les Terriens du samedi sur C8. Et vous allez voir, il s'est confié sur sa peine de ne plus voir sa fille.
Il y a un dossier important, c'est votre fille. Donc, le mec à côté, c'est Caris quand même. Donc, votre fille fréquente Caris.
Oui, bah justement, j'en profite pour lui faire un gros bisou. Puisque ça fait
à Caris ?
Non, ma fille. Ma fille Zoé, que je ne vois plus depuis un an et demi. Ouais. Je l'embrasse très fort et j'en profite pour lui dire que je pense très fort à elle.
Vous la voyez plus, là ?
Non.
Pourquoi ?
Faut lui poser la question.
C'est la fille que vous avez eue avec Agathe de la Fontaine.
Je ne veux plus l'avoir non plus.
Ah, d'accord, c'est bien ça. Là, on vous voit tous les trois. Je crois que les gens ne réalisent pas le succès que vous avez eu avec les femmes après 98. Quand on était champion du monde et qu'on était beau gosse, c'était facile, non ?
Ouais, si on rajoute l'argent aussi,
T'as pas des électrodes ?
Tout ce que
là,
je peux vous dire,
parler,
c'est
là.
Que c'est pas facile de vivre à mes côtés. Ouais. Ah ouais. Bon, parce que je peux être un parfait connard. Hein.
Je l'ai vu tout de suite, moi.
Toujours très drôle, Bachy. Toujours très drôle.
Eux, ils sont plutôt fiers de leurs deux enfants. Ce sont les parents de Big Flo et Oli. Je ne sais pas si vous avez vu cette séquence où ils sont venus récupérer le prix de leur progéniture sur la scène des Victoires de la musique. C'était assez étonnant, quand même.
Je crois que ce sont les parents de Big Flo et Oli qui montent sur cette scène pour récupérer le prix. Bravo. Est-ce que la maman a le courage de dire quelques mots ?
Oui. Bonsoir à tout le monde. Mon salon s'est sacrément agrandi. J'avais le privilège d'avoir Florian et Olivio à des concerts privés. Et aujourd'hui, je les partage avec vous et beaucoup de monde. Et je les en remercie.
Merci beaucoup. Je peux dire quelques mots. Pour un ancien clandestin qui faisait la manche, me retrouver ici, c'est comme un rêve. Alors, dans la chanson qu'ils ont chanté tout à l'heure, mes enfants, ils disaient, moi aussi, on me disait, rentrez chez vous. Moi, je préfère rester chez moi.
Ah. Oui, mais vous voyez, c'est sympa de la part de Big Flo et Oli, on va dire, d'envoyer leurs parents. Mais moi, je trouve ça quand même dérangeant par rapport au public. Bah oui, vous voyez, on parlait tout à l'heure des Victoires de la musique, que c'est de l'entre-soi, etc. Bah, quelqu'un qui a une récompense, je trouve que c'est normal d'aller sur la scène et de recevoir soi-même la récompense et de remercier
pourquoi
soi.
Pourquoi c'est les
là, il y a un message un peu
politique. Parce que leur père, ils ont un peu succédé à leur père qui était chanteur. Ils ont fait une chanson sur leur père. C'était un happening.
Bah oui, mais vous voyez, c'est un happening quand même. Vous trouvez pas ça un peu déplacé par rapport au public qui a voté pour eux, donc qui s'y attend à les voir
Alors, ils les ont vus après, non ? Ils sont venus sur scène, mais c'est vrai que c'est étrange, un peu comme happening.
Il faudra
un nouveau brainstorming pour l'année prochaine.
Samedi, c'était le grand retour. Alors maintenant, ceux qui chantent, après ceux qui ont déchanté, samedi, c'était le grand retour de The Voice. Rémi vous en a parlé. Et celui qui a fait énormément parler de lui, c'est Clément, avec sa reprise très personnelle, justement, de Fils à Papa de Vianney.
De la peine, ça n'en vaut pas la peine, ça n'en vaut pas le jour, pas plus que la chandelle, car si j'ai l'air débile,
j'adore,
dans mon mouchoir trempé, c'est de voir mon nombril et me mettre à pleurer.
Voilà Clément qui a beaucoup fait parler et mon petit doigt me dit, et il est toujours bien informé mon petit doigt, qu'il faut absolument suivre Clément.
Bon, je pensais que ça va être le gagnant de The Voice.
Non, moi je pense qu'il peut être le gagnant et je sais qu'il va un petit peu plus loin. Donc voilà,
je vous précise que toutes les éliminatoires sont enregistrées déjà. Gilles est en train de spoiler The Voice.
C'est grave. Clément a été présenté à la conférence de presse. Donc je pars du principe
que lorsqu'il nous présente les candidats,
ils ne vont pas nous présenter les plus mauvais.
On a une auditrice qui nous dit nul, on ne peut pas faire pire. Et alors Daphné Burki, lamentable, avec des pouces en bas. Donc on n'est pas les seuls à avoir trouvé la soirée nulle.
Et pour finir, alors moi j'étais très déçu de votre part, Rémi et Valérie. Mercredi, vous m'avez rien dit, vous n'avez fait aucune remarque. Je vous avais annoncé qu'il y aurait une chanson chaque semaine sur Schramek de Cyril Hanouna.
Oui.
Vous ne l'avez pas réclamé. Bon, faut dire que l'animateur est imprévisible. Il a fait cette chanson vendredi, donc je ne pouvais pas la mettre mercredi. Alors, il a fait sa chanson sur l'ancien président du CSA vendredi soir, et vous allez reconnaître l'air.
Allô, allô, mais t'as pas de réseau, t'es occupé à dépenser tout l'argent que je t'ai donné. Mange ramène que j'ai déjà payé, j't'ai déjà payé, j't'ai déjà payé, payé les amants que tu m'as envoyés.
Donc voilà. Moi, je pense que j'irai à l'Olympia hein, s'il le fait vraiment.
Voir cette tournée. D'avoir un vrai palmarès, il va falloir quelques-unes quand même pour tenir une soirée.
S'il en fait une chaque mercredi. Ouais, ouais. Donc voilà, c'était déjà la troisième chanson sur Schramek.
Bon, bah, on attend la prochaine. Allez, on attend nous Gilou, Thierry Godard, qui joue ce flic la série existe depuis 17 ans maintenant. Depuis 2005, donc ça fait combien ? Non, ça fait 14 ans. Je vais rajouter un peu. Mais on est ravis d'avoir Thierry Godard avec nous dans un instant. À tout de suite.
Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour.
L'invité du jour, c'est Thierry Godard. Thierry Godard, que vous connaissez sous le nom de Gilou. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Godard, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le flic avec Laure, le duo d'engrenage. Ça fait 7 saisons.
Ouais.
Et c'est toujours un plaisir.
Ah,
c'est
merci.
Toujours le même succès. Vous étiez rendu compte dès le départ que ça allait être une série importante ?
Non, je pense qu'on se rend jamais vraiment compte. Mais en tout cas, on sentait que c'était une série différente par rapport à ce qui avait été fait. On avait une liberté de ton, une liberté de parole.
C'était quand même assez différent déjà à l'origine. Ça a été quand même un choc, cette série.
D'un seul coup, on voyait, on avait tous le fantasme. Enfin, moi, pour ma part, de bad lieutenant, par exemple, ces espèces de flics qui sont borderline, qui se défoncent et qui, voilà, et je rêvais quand même de jouer un flic comme ça.
Ouais. Tout le monde est borderline, non, Grenache.
Oui, les
avocats,
les
avocats sont en tôle. Enfin, bon,
on a une justice police qui est sur le fil, tout le temps. De par ses fonctions et cette responsabilité qu'a la police dans la vie. Général,
c'est vraiment une série qu'on a plaisir à regarder, tout le monde en parle, enfin, c'est une série événement. Je citerai Juliette qui travaille avec nous, qui dit « Je m'oblige à ne pas regarder tous les épisodes tellement j'aime cette série ». Et c'est vrai qu'on est tenté, et puis Rémi racontait juste avant que lui il la regarde, je ne sais pas si ça intéresse les auditeurs,
non, mais le lundi,
tous les lundis.
C'est-à-dire que c'est un peu le rendez-vous, parce qu'on est tenté, bien sûr, il y a beaucoup de binge-watching, comme on dit maintenant, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait aller sur le site de Canal et regarder les 12 épisodes à la suite. Mais je trouve ça bien de pouvoir déguster chaque semaine un petit bout de vos aventures noires.
Alors, c'est pas politiquement correct. Là, moi, j'ai vu les deux premiers épisodes. Ouais. Ça se passe en banlieue. Il y a des choses...
Et ça se passe en banlieue et ça se passe dans le 17e et dans le 8e. Enfin, dans des quartiers où il peut se passer aussi des choses pas nettes. Donc voilà, ce qui est bien pour cette saison, c'est qu'on part un peu dans... D'habitude, on est beaucoup en banlieue sur sur des affaires un peu de grosse délinquance. Et là, c'est une délinquance col blanc aussi.
Ouais. Là, on le sait. Là, on n'a pas encore, tous les éléments, mais on sent que ça va. Non, mais on ne veut surtout pas que vous nous les disiez, ça ne va pas, non ? Alors, vas-y,
Est-ce que vous êtes proche de... Est-ce que vous pensez que votre personnage, il est proche de la réalité ou pas ?
Qu'est-ce qu'ils vous disent, les flics ?
Alors, les flics, eux, ils disent « Ouais, je suis un flic à l'ancienne, un petit peu. » Les flics fonctionnaient comme ça il y a 20-30 ans. Moi, je pense qu'ils fonctionnent encore un petit peu comme ça, moins. Parce que, être flic, c'est aussi quelque chose de sérieux. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, il y a des procédures, il y a des... je prends des libertés qu'ils aimeraient bien prendre, en tout cas.
Mais il vous parle dans la rue, parfois
Souvent. Moi, j'habite dans un quartier, j'habite vers Strasbourg-Saint-Denis, et souvent, il y a la BAC ou des flics en planque. Et pas une seconde, on se soupçonnerait que c'est des flics.
Ouais.
Je me dis, qu'est-ce qu'il me veut, lui ? En fait, c'est un flic qui m'a reconnu et qui me dit, comment vas-tu ?
Vous êtes un des leurs.
Je suis un peu un des leurs,
Comment on vit pendant 15 ans, 14 ans, j'ai dit 17 tout à l'heure, pendant 14 ans avec ce personnage ? Quand vous tournez pas, vous arrivez quand même à vous en extraire. Enfin, c'est long, 14 ans avec un personnage.
Ouais, enfin, j'ai la chance quand même de tourner.
Oui, vous tournez beaucoup d'autres choses. On vous a vu dans un village français.
Dans un village français,
Oui, vous faites beaucoup d'autres choses d'ailleurs.
Ouais, je fais beaucoup d'autres choses. J'ai cette chance parce que aussi, c'est la chance de cette série, c'est que pas pour les gens qui l'aiment, parce qu'on a toujours un an et demi de break entre chaque saison, ce qui nous permet nous de nous ressourcer, d'aller voir ailleurs, parce que c'est vrai que c'est des personnages qui sont assez durs des fois, c'est compliqué des fois, entre la relation entre nous, et ce qu'on vit, quoi, enfin, même si on découvre un cadavre qui n'est pas un vrai cadavre. Mmh. Mais on est quand même à 7h du matin en banlieue à voir une espèce de mannequin complètement désossé. Ouais.
Donc vous le vivez, quoi.
Ouais, on le vit, mais bon, c'est en toute proportion gardée. Hein. Ouais. Voilà, on reste des flics d'opérette, quoi. Ouais.
Vous avez été tenté de suivre des vrais flics dans un commissariat, d'aller dedans pour voir, vous inspirer de l'atmosphère?
Ouais, bien sûr. Ouais. On a les gens avec qui on travaille, qui sont très près de la construction d'engrenages, qui sont la deuxième DPJ sur le canal Saint-Martin, voilà. Qui sont très chouettes et qui sont pas du tout avares d'expérience. Et là, on était dans leur bureau, on a vu. Alors, compliqué d'assister à des vrais interrogatoires, parce que c'est quand même des choses très intimes dans lesquelles on ne peut pas introduire n'importe qui. Mais en tout cas, voilà, ils sont là et c'est très précieux leur aide. Ouais, très précieux.
Allez, on se retrouve dans un instant avec Thierry Godard, Gilou dans la série Engrenage. On a Catherine qui nous dit super série que je suis depuis le début, très réaliste, un jeu d'acteur au top. Voilà, j'adore. Bah, écoutez, merci. On est content. On se retrouve dans un instant.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
De retour avec vous dans le studio de Sud Radio. C'est le retour de la série Engrenage. Ça a commencé la semaine dernière. J'espère que vous n'avez pas loupé les deux premiers épisodes. Thierry Godard est avec nous. Thierry Godard qui est Gilles Escoffier, dit Gilou, évidemment. Mmh. Vous formez donc un couple mythique avec Caroline Proust, Laure qui revient. Alors vous avez pris sa place. Hein. Vous êtes chef de groupe.
Ouais, c'est pas facile le retour.
C'est pas facile.
Elle est un peu malade.
Elle est un petit peu malade.
Elle a trop de la tête.
Voilà, c'est pas mal. Mention spéciale quand même au juge aussi, également à l'avocate
Audrey
Fleurot. Oui, c'est vraiment un casting assez incroyable.
Et hein. Touffi Jalab, mon nouveau coéquipier qui est super aussi.
Audrey Fleurot, vous ne quittez pas, vous étiez avec
sur Village Français ensemble. Sur Village Français ensemble, on a fait deux séries au long cours.
On a une question d'une auditrice qui demande si quand vous tournez en banlieue, ce sont des figurants ou est-ce que ce sont les gens qui habitent la cité, en l'occurrence. On voit qu'il y a des scènes dans le premier épisode qui sont tournées en banlieue.
Alors, il y a un gros travail qui est fait par Mylène, qui s'occupe de la figuration et qui passe du temps. Quand on sait qu'on va tourner à Bobigny, on a envie de faire travailler les jeunes de Bobigny. Voilà. Et quand on tourne à Ivry, les jeunes... Donc, elle fait ce travail de recruter des gens. Et il arrive sur... voilà, au début, ils font de la figuration. C'est des jeunes qui sont là, qui ne parlent pas, qui sont juste présents. Et il arrive que certains sortent du lot et qu'elle leur propose une petite phrase, un petit rôle. Ouais. Et voilà, et des fois ça donne des miracles. Ouais.
Et vous pouvez vous balader en banlieue ?
Ah ouais,
oui, quand même.
Ah non, carrément. C'est-à-dire que aussi bien, c'est une série qui aussi bien les flics que les voyous aiment, en fait. Le voyou, il sait que quand il s'est fait arrêter, c'est exactement comme ça. Donc il y a quelque chose de, il est pas trompé sur la marchandise, et je trouve qu'il y a plutôt un bel accueil, ouais. Et chez les tolards aussi, beaucoup de tolards. Que je croise, qui ont été en prison et qui évidemment eux connaissent toute la série. Parce que
vous en rencontrez pour le de la série
que je croise dans la rue comme ça dans les gares.
C'est eux qui vous abordent alors.
C'est eux qui m'abordent, ouais.
Et ils vous racontent, ils vous disent j'étais en prison, j'ai regardé votre série.
Je t'ai vu Gilou au placard. J'ai vu toutes les saisons et tout. Il est content.
Ouais. Ah, c'est dingue.
Combien il y a de jours de tournage pour un épisode?
Il y a entre 13 et 14 jours, 13 et 14 jours pour un épisode.
Pour un épisode.
Ouais. C'est quand même extrêmement rapide. Ouais. Un peu plus que, sur le Village Français où on avait, je pense, 11 jours. Donc on a quand même les moyens de travailler plutôt bien. Mais c'est par rapport à un film de cinéma qui se fait des fois en beaucoup plus de semaines. Ouais, c'est quand même, ça va vite. Ouais.
Ouais, ça va assez vite. Et ce qui est formidable, c'est que depuis cette saison, s'il y a un perpétuel renouvellement. On va citer quand même ceux qui l'ont inventé, créé cette série, Alexandra Claire et Guy-Patrick Saint-de-Richin, parce que ce sont eux qui sont à l'origine, qui ont eu l'idée de cette série.
Exactement, ouais.
Il faut dire que cette série, c'est la série la plus vendue à l'étranger, la série française la plus vendue à l'étranger.
La BBC, en l'occurrence,
105 pays.
Ouais. 105 pays,
c'est juste énorme.
C'est énorme, ouais.
Et vous avez été nommé plusieurs fois comme meilleure série étrangère.
On a eu un Emmy Award. Aux États-Unis.
Pour la saison 5.
J'imagine, comme c'est diffusé sur la BBC 4 en Angleterre, quand vous allez à Londres, vous êtes reconnu?
Ouais, plus que James Bond.
C'est incroyable. C'est une drôle de sensation d'être dans un pays étranger.
Ouais.
Et de
surtout les Anglais, parce qu'on est quand même assez fans des séries anglaises Et voilà, ils ont, une tradition des séries, voilà, qui est
Est-ce chouette. Qu'il y a plus de liberté dans les dialogues, dans ce que vous jouez sur Canal+, que ce que vous pouvez jouer pour le service public, par exemple? Alors après, c'est très différent, c'est difficilement comparable.
Non, moi, je trouve que le service public arrive maintenant vraiment à avoir cette liberté-là aussi. Mais après, en grenage, dès le début, on avait cette liberté. Déjà, il y a un énorme travail qui est fait sur les scénarios, parce que quand on a un scénario, c'est déjà une V8. Mm. C'est-à-dire, pour expliquer, c'est déjà, il y a eu 8 relectures, 8 ouais. retravails sur le scénario. Et nous, en plus, derrière, on arrive, quand on joue, à aussi retravailler les dialogues qu'il faut se mettre en bouche.
Vous changez beaucoup les dialogues?
On change quand même, surtout sur des scènes, alors moins sur des scènes informatives où on dit, voilà, il faut aller dans tel quartier, arrêter machin, parce que Bidule a fait le truc. Donc là, tout ça, c'est très précis. Mais après, sur des interrogatoires où on est dans l'humain, un peu, où on doit faire avec la personne qui est en face, même si ça reste du jeu et qu'on n'est pas dans un vrai interrogatoire. Donc ça, ouais. c'est... Et puis on a cette espèce de, on va dire, de passif du personnage qui fait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire.
Ouais. Alors pour vous donner une petite idée, une petite couleur, je vous propose d'écouter la bande-annonce, Valérie.
Machine, billet, téléphone.
Un braquage qui tourne mal et un nouvel engrenage qui commence.
Il fait peut-être partie de la bande qui a tué Herville, après le braquage.
La recherche de la vérité exige souvent de jouer de l'effet de surprise.
Vas-y, sors de là.
Mais qu'est-ce que c'est, putain ?
À qui appartenait l'argent que vous avez volé ?
Où mouvent les assassins d'Herville ? C'est une question de manière.
Tiens, après, un mec qui sort pour les serres.
Jamais tu me fais un coup pareil, t'entends ?
Je peux t'aider, mais en échange, je veux ton gîte.
Engrenage, suite de la saison 7 inédite. Voilà. Lundi 20h55 sur Canal+.
C'est pas hyper radiophonique, mais,
ça, mais donne bien l'ambiance. Ça donne le ton.
Merci Gilles pour cette bande-annonce. Est-ce qu'il y a une saison 8 en préparation?
Ouais, tout à fait, en écriture. Ouais.
Qui est en écriture et... Et vous êtes toujours, vous y allez toujours avec le même enthousiasme que nous, on a téléspectateurs à la regarder et à l'attendre.
Ouais, surtout que la 8, là, il va y avoir vraiment des choses.
Vous êtes déjà au courant
De certaines choses.
Vous pouvez influencer.
Oui, c'est ça, voilà.
Vous pouvez influencer votre rôle.
Non, mais on peut pas influencer, mais on peut dire, tiens, là, ce serait bien que mon personnage, il se passe autre chose. Parce qu'on veut pas s'installer non plus dans une routine, même si ça fait déjà 7 saisons.
Ouais.
Mais on veut être surpris. Les comédiens, on a envie
d'avoir à manger. Donc vous discutez un peu avec les scénaristes.
Ouais, sans les influencer, mais en tout cas, c'est intéressant de passer un petit moment avec eux. Alors après, eux nous connaissent quand même beaucoup, mais c'est, je dirais pas que c'est écrit pour nous, mais il y a un moment donné, il faut écrire pour les acteurs. On est obligé.
Ouais.
On est une des composantes qui devient quand même assez essentielle.
C'est une série qui peut durer, enfin, j'allais dire éternellement, peut-être pas, mais quand même qui peut durer longtemps, parce que vous avez plusieurs personnages, vous pouvez faire rebondir en permanence les.
Je sais que Roger Hanin, à la fin de sa vie, il avait le commissariat dans sa maison de campagne. Je vais peut-être faire pareil.
Vous allez faire pareil, oui. Vous voyez en dehors, enfin c'est une question un peu idiote, mais est-ce que c'est une équipe soudée? Est-ce qu'il y a des amitiés qui se créent quand on tourne comme ça ensemble pendant
énormément. C'est comme au théâtre en fait. Au théâtre, quand on joue un an avec les gens, on les connaît presque, on les voit presque plus que nos compagnes des fois. Donc et là, on part en vacances ensemble. Les enfants ont grandi ensemble. Sans mine de rien, mon fils il a 18 ans, les filles de Caro elles ont 19 ans.
Donc
on est depuis 14 ans, donc ils se connaissent depuis qu'ils ont 4 ans. Quoi.
Donc il y a une vraie famille qui s'est créée.
Bien sûr.
Moi je voulais savoir, il vous plaît le studio de Sud Radio? Alors, je vous pose cette question-là, parce que vous avez été ébéniste. Comment on passe d'ébéniste à comédien? Parce que le studio, pour ceux qui
n'ont pas sur Facebook, il y a beaucoup de bois.
Surtout, on voit la forêt derrière, une forêt de bord de Seine. Non, je suis passé... En fait, j'ai appris l'ébénisterie...
Vous imaginez pas ébéniste.
Vous m'imaginez pas ébéniste.
Comment on devient
Je suis parti en vacances quand j'avais 14 ans et il y avait une menuiserie chez des amis et puis j'ai voulu faire
mais
ça.
Mais après, comment on passe de l'un à l'autre? Comment on devient comédien?
J'ai très peu exercé comme. J'ai exercé comme ébéniste le temps de mes cours de théâtre. Je prenais des cours le soir. Je travaillais la journée et vite après j'ai arrêté.
C'est ce que vous vouliez faire, comédien.
Ça s'est fait en même temps. Il y a un truc, mais j'avais 17 ans, j'ai voulu être comédien en même temps qu'être ébéniste. Et en me disant, si j'ai un boulot dans les mains, ça sera un peu plus simple pour si je galère.
Faites
une sorte de sécurité.
Et vous aimez bien faire des travaux manuels, des choses comme ça? Vous avez complètement laissé tomber?
Non, j'ai une maison en Suède, en bois.
Sérieusement?
Vous avez construite vous-même?
Non, j'ai pas construit moi-même, qui est une vieille maison qui a 120 ans, qui est sur un. qui est sur les bords d'un lac et tout, et que je peux bricoler, que je peux, enfin voilà, le bois je connais.
Et votre maison de campagne c'est en Suède alors.
Ouais.
Pourquoi vous êtes marié avec une Suédoise?
Non, pas du tout. Non, j'étais en colo quand j'étais gamin et je suis dingue de des pays.
Ah bon, deux trois mois en suédois?
Non, rien du tout. Si, hey, bonjour, heido, au revoir.
Vos projets à vous,
merci,
c'est quoi?
Tac.
Parce que ce rôle ne vous a pas enfermé. Encore une fois, on dit que c'est, depuis 14 ans, vous pourriez être prisonnier de la série. Mmh. Or, vous avez tourné, on a évoqué un certain nombre de choses, le village français. Vous avez fait Souviens-toi de nous, de Lorenzo Gabriel. Enfin, il y a beaucoup de...
Ouais.
Vous avez beaucoup tourné. Et là encore, on va voir bientôt sur TF1, c'est ça?
Oui, avec Mathilde. Avec Mathilde Seigné. Et la question, c'était?
C'était vos projets à vous. Qu'est-ce que vous allez faire?
Alors moi, je vais mettre en scène une pièce que j'ai écrite. Ouais. Voilà, qui s'appelle Cambouis, pour quatre comédiennes, trois filles et leur mère, que j'écris il y a 6-7 ans et que voilà, que et j'ai envie de mettre en scène là maintenant. Et puis voilà, et avec Lynn Renaud, on a un projet tous les deux sur scène, qui s'appelle Conversation avec ma mère, qu'on aimerait faire en septembre prochain.
Ouais.
Voilà, il y a du théâtre et puis bon, les tournages après, bon, ça vient quand ça vient, mais
En
tout cas, il y a la saison 8 qui démarre fin avril.
Ouais. Le tournage.
Le tournage. Ouais. Vous enchaînez le tournage.
Ouais, on enchaîne. Ouais. Et ça, c'est la première fois qu'on enchaîne aussi vite.
Oui, aussi vite, c'est ça.
Ouais. Il y a eu un boulot qui a été fait.
Donc, ne nous dites pas, ne spoilez pas la suite d'Engrenage. Donc, les deux premiers épisodes la semaine dernière. Ce soir, évidemment, on sera devant notre télévision pour la suite. Moi aussi, je les consomme avec parcimonie. Parce
d'où
qu'on
n'a
pas, pas envie. On n'a pas envie que ça se termine. Quoi. C'est un peu comme un bon livre.
C'est ça. Moi, je suis très fan de séries. Alors, je partage.
Vous regardez quoi?
J'ai regardé Bloodline. J'aime bien la dernière Stranger Things.
Sur Netflix,
là, j'attends la troisième saison qui arrive en juillet, je crois.
Oui, qui a pris un peu de retard.
Voilà, plein de choses, mais... Okay.
Vous la regardez beaucoup, la télé?
Non, pas trop, mais je regarde sur ma tablette, évidemment, des choses, mais...
La télé suédoise.
Télé suédoise, ça m'endort, et puis je comprends rien, et du coup, je me mets...
Merci beaucoup, Thierry Godard, d'être venu ce matin sur Sud Radio. Donc, 21h ce soir, Canal+, Engrenage, avec, entre autres, Caroline Proust, Philippe Duclos, Fred Bianconi, Audrey Fleurot. Bon, ils sont nombreux, on ne va pas tous les citer. Toufik Djellab, absolument.
Il est nouveau, lui.
C'est votre nouveau coéquipier. Merci beaucoup, Thierry Godard.
Merci à vous.
On se retrouve dans un instant, mais pour parler d'un documentaire qui va passer sur Canal+, et 7 portraits d'otages, c'est remarquable. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous jusqu'à midi pour le 10h midi, entre 10h et 11h, les médias. L'événement cette semaine, ce sera la diffusion sur Canal+, d'un documentaire Otages. Avec entre parenthèses un S, et on a le réalisateur avec nous, Michel Perard, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été otage, vous également, des talibans. Vous avez été interrogé 7 personnes, 7 anciens otages, un Colombien, une Italienne, un Français, 2 Autrichiens, un Américain. C'est glaçant, c'est passionnant, c'est... j'ai pas de mots, mais vraiment, on est happé par les images. Déjà, moi, sur le titre « Otage », apostrophe, et le S entre parenthèses, pourquoi ?
Je crois que ça veut raconter d'abord que cette expérience, elle est singulière, donc otage au
Ils
singulier. Et être otage, c'est un statut, c'est un état qui concerne une personne à un moment donné. Ouais. Et otage avec un S entre parenthèses, parce qu'effectivement, on a 7 grands témoins, 7 témoignages dans le film.
Très fort et très très fort, hein, parce qu'on sent aujourd'hui encore l'émotion. Ils ont pour la plupart été relâchés il y a quand même plusieurs années. Et on sent une émotion dans chacun de ces témoignages assez, assez incroyable.
Et je crois que c'est le principe de la narration qui peut être celle d'un ex-otage. C'est-à-dire, dans un premier temps, il ne peut pas la faire lui-même puisqu'il est détenu. Et dans un deuxième temps, quand il est libéré, il est très souvent projeté en pleine lumière. Donc c'est les fameuses scènes qu'on voit à Villa Coublet. Parfois, ils ne vont pas mal, mais ils sont dans un état de sidération tout de même. Il faut du temps pour que le récit se structure, qu'il soit à même de raconter, de contextualiser. Et très souvent, quand ils sont prêts, on les écoute plus.
Ouais.
Donc je pense que c'était le bon moment, effectivement. En général, ils ont été libérés depuis 2 ou 3 ans. Et maintenant, ils ont une vue, ils sont capables de structurer le récit.
En regardant votre documentaire, j'ai eu l'impression qu'en fait, même s'ils n'ont pas été tués, ils sont un peu morts de l'intérieur.
Alors, je suis pas d'accord avec vous. Moi, je pense que d'abord, cette résilience qui était leur seule arme au moment de, face à l'arbitraire des geôliers, ils ont su l'utiliser. Plusieurs d'entre eux ont changé de vie, effectivement, mais ont mis à profit la force qu'ils ont pu acquérir. Parce que finalement, ils se connaissent mieux. Ils ont eu le temps de se jauger par rapport au stress, par rapport aux ravisseurs, par rapport à la violence, par rapport à la brutalité, par rapport surtout à cette omniprésence de la mort, puisque la mort est toujours présente quand on est otage, on est toujours aux aguets, il peut se passer n'importe quoi à n'importe quel moment. Donc certains en sont sortis plus forts. Ensuite, effectivement, pour notamment l'une d'entre elles, une otage italienne, elle a des difficultés de réadaptation, mais c'est plus dû à un hiatus qui s'est opéré avec sa propre famille. En fait, très souvent, enfin, ça arrive parfois. La famille fait des reproches, même inconsciemment, à l'otage, parce qu'ils ont souffert eux-mêmes. Et c'est un peu souffrance contre souffrance. Donc effectivement, pour certains d'entre eux, c'est un peu plus difficile.
Moi, j'ai trouvé qu'au contraire, pardon Rémi, il y avait une force incroyable chez ces gens, et on ne peut pas ne pas se poser la question de se dire comment moi j'aurais réagi, mais je trouve qu'aujourd'hui encore, ils ont une force, une vitalité, une comme vous le disiez, une résilience qui m'a moi frappé.
Moi, je voulais savoir comment vous avez choisi ces 7 otages, parce qu'au fond, il y en a qui sont otages des FARC, il y en a 2, il y en a d'autres plutôt d'otages
Al-Qaïda.
Mais comment vous avez choisi ces personnalités, et il y en a plein d'anciens otages.
Alors, la prise d'otage, elle a toujours existé. Ouais. Je crois qu'on a tous inscrit quelque part dans notre mémoire le fait que, effectivement, ça existe. En revanche, il y a eu un changement de qualité de l'otage. Auparavant, c'est ce qu'on appelait l'otage donné, c'est-à-dire, dans le cadre d'une guerre, on donnait des otages en guise de garantie qu'un traité allait être effectué. Mais ça dure jusqu'au XVIIIe siècle. Oui. Et au XXe siècle, on était plus sur des prises d'otages collectives. On se souvient tous de la prise d'otage à l'ambassade des États-Unis à Téhéran, l'ambassade du Japon à Lima, Lac-et-les-Moreaux en TB, etc. Mais les choses ont changé. Désormais, les ravisseurs ont compris qu'il y a une forte valeur ajoutée quand l'otage est individuel, et qu'on va mettre soigneusement son calvaire en scène. Donc, en fait, je voulais absolument que ce soit des otages innocents. Innocents, entre guillemets. C'est-à-dire totalement étrangers au conflit qui va les séquestrer. Ouais. Et pour ça, effectivement, on a le choix entre...
Mais qu'est-ce qu'un otage non innocent?
Innocent, c'est-à-dire qu'il n'est pas... Il est ni militaire, il est ni barbouze, entre guillemets, ni... C'est soit un touriste, soit un humanitaire, soit un journaliste, parfois un homme politique, mais il est extérieur à ce conflit. Ça, c'est important. Et c'est effectivement la nouvelle tendance en matière de prise d'otages, c'est-à-dire les ravisseurs prennent des otages qui n'ont absolument rien à faire, avec ce conflit-là.
Donc ils vont provoquer évidemment une émotion de l'opinion publique.
Exactement, il faut que l'opinion publique puisse s'identifier. Et ensuite, dans cette série d'otages, alors malheureusement c'est une industrie florissante, il y a eu énormément de prises d'otages depuis une vingtaine d'années, il fallait que chacun raconte une histoire, chacun évoque un thème. L'un d'entre eux va évoquer l'enfer, peut-être la solitude. Un Colombien qui est resté 8 ans...
Incroyable.
Le montage du début est incroyable. Ouais. On voit qu'il fête tous les nouvels ans là-bas, avec vous avez monté à chaque fois et où il souhaite...
C'est ça, on égrène de façon assez rapide l'épreuve de vie. Et on voit le temps qui passe, et on voit aussi la transformation physique d'Oscar Tullio. Il est kidnappé, il a un peu plus de 50 ans, et c'est un vieil homme, en fait, quand 8 ans après... 8 ans de jungle, 9 paludismes, dont un cérébral. Et donc l'un incarne la solitude en ce qui le concerne, parce que ses geôliers ne lui parlaient pas. Donc il était totalement incommuniqué, au point qu'il va donner, c'est un ancien universitaire, il va donner des cours aux armes.
Chacun effectivement a des petits trucs avec l'obsession de l'évasion, qui est le point commun aussi à chacun d'entre eux, qui est le seul espoir, finalement.
Qui est, de mon point de vue, le luxe de l'otage. Ouais, c'est-à-dire très peu le maître le réalise, l'évasion. Mais tous les otages rêvent d'évasion, et tous rêvent d'évasion la nuit. C'est-à-dire, ils se voient... C'est une scène qui est assez récurrente, qui raconte très bien. Ils se voient sortir de leur geôle, de leur cachot, ou du désert africain, et puis ils vont voler, ils vont franchir les lignes, et puis ils vont se retrouver chez eux. Ça nous donne l'occasion d'illustrer. On procède beaucoup par évocation. On voulait pas de reconstitution, donc avec Damien Vercamer, le co-réalisateur, on a beaucoup travaillé sur les propos des otages en amont, qui nous disaient ben moi je voyais ma campagne du Vermont et je skiais, j'étais enfin chez moi, un champ d'olivier pour l'italienne.
Oui. Et on se rend compte que la plupart des otages ont des notes. On voit ça dans votre film, qu'ils veulent se souvenir de chaque détail, y compris Pierre Borghi, par exemple, qui c'était terrible, puisqu'il était dans un trou.
Dans un trou,
on sait que ça est arrivé, mais quelqu'un qui nous le raconte avec tant de détails. Et beaucoup, alors la plupart disent, en plus, moi j'y pense tous les jours, parfois il n'y a pas deux heures, ça c'est Peter Curtis qui explique ça, il n'y a pas deux heures sans que je pense à ma prise d'otage.
Oui, alors ils écrivent beaucoup, ils écrivent sur ce qui se passe quand ils en ont la possibilité. Très souvent, ce sont des cahiers qui sont occultés, ils ont toujours peur que ces cahiers soient saisis par les ravisseurs. Et ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils écrivent des sortes de promesses de vie. C'est-à-dire, ils font un bilan en fait, de leur vie en détention, et ils se promettent de corriger certaines erreurs. Et Pierre, en l'occurrence, effectivement, voulait... C'est à Féniste, il a écrit, il était menotté dans un trou, dans le noir, dans l'obscurité, dans un trou qui fait 40 par 60 centimètres, mais il trouve le moyen quand même d'écrire sur une seule feuille le fait que, eh bien, il vivrait près de la mer à l'avenir, qu'il ferait de la voile parce qu'il est passionné de voile, qu'il voudrait avoir une porte et une fenêtre, qu'il voudrait être propre parce que effectivement les conditions, la promiscuité est telle qu'il est sans sale. Voilà, oui, il y a des promesses de vie comme ça qui sont.
Est-ce qu'il fallait que ce soit un ancien otage qui les interroge ? Est-ce que ça a joué dans le
Alors moi, j'ai pas été tout à fait otage. Non. Je vous ai pas coupé tout à l'heure. Moi, j'étais prisonnier. Donc la différence semble ténue, mais elle est essentielle dans la gestion de la détention. C'est-à-dire que moi, j'ai été arrêté par les talibans alors que j'étais rentré clandestinement en pleine guerre en Afghanistan. Donc, je pouvais m'attendre à une instruction, un procès et un jugement.
Oui,
et
ça a été le cas. Nuance,
Il y a un début et il y a une fin. Donc, moi, j'ai été condamné à mort et puis gracié. L'otage, c'est pas ça du tout. L'otage, il est livré à l'arbitraire. Il ne sait pas quand, si il va sortir un jour et s'il sortira vivant, surtout.
Ce qui me frappe, c'est quand, à la fin de votre documentaire, sans tout déflorer, mais... ils se remettent pas quand même. C'est-à-dire que c'est même parfois assez tragique le bilan. Je pense à Pierre qui est quand même dans une vision de lui-même assez négative.
Et pourtant vous m'avez dit non quand je parlais de petit.
Non mais t'as dit mort. C'est pas la mort. C'est pas du tout pareil.
Oui. C'est
pas.
Et c'est devenu une obsession. Ils ont plus
d'autre
vie.
Et puis sur Pierre. Attention parce que c'est un documentaire. Donc ce tournage a eu lieu au mois de mai dernier. Pierre n'avait pas retrouvé de travail depuis sa libération. Le seul travail qu'il a trouvé, peu après sa libération, ça a été lors de l'épidémie Ebola en Afrique, d'aller ramasser des corps en Afrique. Ce qui n'est quand même pas génial pour une termes de reconstruction. Puis après, plus rien. Plus rien, pourquoi ? Parce que les ONG, les institutions se méfient un peu d'un otage. Est-ce qu'il est fragilisé ? Est-ce qu'il va pouvoir supporter encore le stress inhérent à une mission ? Et depuis là, il va beaucoup mieux. Il a fait une formation, il a des pistes de travail. Donc, voilà, on a une photographie d'un otage qui allait pas bien à un moment donné, ce qui nous arrive à tous. Mais maintenant, il est nettement plus
fort. Les autres, Peter Curtis. Enfin, il y a une obsession. Moi, ça me fait penser à ceux qui sont revenus de déportation, par exemple, qui sont hantés par ce qui les a, ce qu'ils ont subi pendant des années.
Ils ne peuvent pas toujours le raconter. Ouais. C'est ce qu'ils nous disaient.
Hein, exactement.
Les rescapés.
Et ça, il y a une proximité quand même, je trouve.
Ouais. Ça arrive. Encore une fois, ce ne sont pas tous les otages. Il y a des otages qui reprennent le cours de leur vie normalement. Je pense notamment aux otages français en Syrie, Didier François, Nicolas Hénin, Pierre Torres. Ils ont repris le cours de leurs activités. Peut-être parce qu'ils sont journalistes et un petit peu plus rompus aux zones de guerre et à la gestion du stress. Mais effectivement, il y a des otages qui ont une faille. Ensuite, c'est à eux, et ils le font ce travail, c'est à eux de surmonter ça et de donner du sens. Ils sont quand même très bien situés très bien placés pour donner du sens à une vie qu'ils ont failli perdre.
Dans une interview, vous disiez quelque chose de bizarre, mais les familles qui, elles, avaient vécu aussi ce drame de leur côté se sentaient parfois délaissées, puisque toute la lumière allait sur l'otage, et eux avaient l'impression d'avoir autant souffert que lui, ou presque. Est-ce que vous racontiez dans une interview que les familles se sentaient un peu délaissées quand ils revenaient ?
Alors, c'est la grande surprise du film. Je savais que ça existait. Et en fait, sur nos 7 grands témoins, 5, la majorité, ont eu des problèmes au retour. En fait, ce qui se passe, c'est que les familles aussi souffrent et qu'elles veulent que cette souffrance soit prise en compte. L'otage, au moment de sa libération, qui est en pleine reconstruction, n'est pas en mesure de prendre en compte la souffrance des familles. Et très souvent, il y a une sorte de hiatus qui se crée,
de décalage
où finalement l'otage dit bah oui, mais l'otage tout de même c'était moi. C'est la réalité, c'était moi l'otage. Mais il faut prendre en compte la souffrance des familles, et désormais les psys qui travaillent au retour avec les otages travaillent aussi avec les familles. On a pris conscience que effectivement ça a des conséquences, y compris sur l'environnement familial.
Oui, alors c'est mercredi soir à 21h, vraiment regardez-le, parce qu'il y a énormément de choses. Moi j'avais pas envie qu'on rentre dans le détail, parce qu'on a découvert, on découvre au fil les histoires singulières de chacun de ces otages. Juste, il y a l'histoire quand même de ce couple autrichien, je résiste pas à raconter l'histoire, qui avait menti sur leur couple et qui finit par avouer qu'ils n'étaient pas mariés, et il y a un mariage dans le désert
organisé par les djihadistes en disant ils pouvaient pas se marier parce qu'ils étaient encore chacun en instance de divorce, et ils leur disent oui, chez nous on peut.
Et puis il y a l'histoire de l'américain qui est absolument abominable. Bon, voilà, non mais c'est pour donner envie aux gens de le regarder. Alors j'avais envie de vous donner envie de le regarder, mais j'ai pas envie de spoiler,
si je peux rajouter un dernier mot. J'ai travaillé avec une société de production créée par un journaliste que vous connaissez tous, Victor Robert, et j'ai travaillé dans les meilleures conditions qui soient, c'est-à-dire c'est un rêve de réalisateur de travailler avec Victor. On a travaillé dans 5 pays et on a surtout eu l'occasion de faire un film ambitieux. Et je pense qu'il fallait faire un film ambitieux en termes d'image par égard pour nos personnages. Donc merci Robert.
Absolument, Michel Perard, merci. Et vous l'avez co-réalisé avec Damien Vercomer, qui était avec vous, avec des très belles images, et donc produit par Victor Robert. Mercredi 21h sur Canal+, à ne pas manquer. Document extrêmement fort et passionnant. Voilà, merci à vous. 30 secondes pour convaincre.
Sud Radio, le 10h midi, les médias. Vous avez 30 secondes pour convaincre.
On en parlera jeudi, Valérie.
C'est beaucoup plus futile.
Voilà, c'est le jour de la Saint-Valentin. Ce soir, c'est le grand retour de Marié au premier regard. Vous savez, on trouve votre époux ou votre épouse. Et puis, vous le rencontrez pour la première fois seulement devant la mairie. Le jour de votre mariage, on a téléphoné à Camilla Fievier-Paliès, c'est la directrice des programmes de Studio 89. On lui a donné 30 secondes pour nous convaincre.
Dès ce soir, vous allez découvrir les 6 nouveaux couples de cette saison. Ces 12 célibataires vont cette année beaucoup plus nous raconter eux-mêmes ce qu'ils vivent, autant leur angoisse que leur bonheur, grâce à leur téléphone portable. Nous allons aussi découvrir comment les experts les aident au jour le jour à construire leur amour. En effet, l'amour est un travail de tous les jours, et certains conflits ou certaines déconvenues pour ces couples seront difficiles. Ils auront besoin des experts pour trouver la clé. Beaucoup d'émotions, toutes les étapes de la création d'un amour pour ces 6 couples. Une belle aventure à suivre dès ce soir à 21h sur M6.
Voilà. Donc Marié au premier regard sur M6, sur TF1 Sam,
la suite de la série qui marche bien.
Zone Blanche,
une série policière sur France 2. Oui, c'est tout à fait.
L'homme qu'on aimait trop sur France 3. Et donc, évidemment, Engrenage sur Canal+. Si vous avez Canal+, je pense que vous serez devant le poste.
Justement, ça va être Sam.
Sam
et France 2 en 2.
Moi aussi. Allez, pareil. On fait des paris tous les jours. Voilà, M6 en 2.
Moi, je mets M6 en
4. Allez, on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. 0826 300 300. À tout de suite.